Vous écoutez France Culture.
Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Jacqueline Risset, qui publie « Les instants, les éclairs » chez Gallimard, dans la collection « L'infini ». On ne vit, en réalité, qu'une partie de sa vie. Elle s'échappe de tous les côtés. La vivre entièrement est impossible. Il faudrait retenir chaque instant, autant suspend ton vol, mais l'arrêter serait inexact, erroné, injuste. Ce que j'appelle instant est une tentative maladroite de vivre plus à fond ce tissu qui s'enfuit. On se souvient sans doute, Jacqueline Risset, car ce n'est pas la première fois que vous venez à ce micro, que pendant quelques années, de 1967 à 1982, vous avez été membre du comité de rédaction de la revue Telle Quelle, la revue de Philippe Solers, qui aujourd'hui est le directeur de cette collection L'Infini, où vous publiez votre nouveau livre, qui est à ce jour le dernier, mais vous avez publié le premier dans la collection Telle Quelle, en 1971, c'est « Jeu », J-E-U, un livre qu'il fallait considérer comme un récit. Bon, on sait aussi que vous avez traduit la Divine Comédie de Dante, vous n'en avez pas fini avec Dante d'ailleurs, même si, entre-temps, vous aviez publié plusieurs essais sur Dante et sa biographie, « Dante, une vie » chez Flammarion en 91, mais vous n'aviez pas tout traduit, alors il vous restait quelques besognes dans vos tiroirs. C'est les rimes qui vont paraître à la rentrée, chez Flammarion. Beaucoup plus difficile à traduire que la comédie.
Oui, encore plus difficile, ce qui est difficile déjà. Mais la comédie, disons la Divine Comédie, est un tel tout dans lequel il y a une espèce de mouvement qui commence à la première ligne et qui finit à la dernière ligne du paradis. Et donc, on est pris dedans. La traduction, c'est une espèce d'accompagnement très, très proche, disons, quand on est... Quand on traduit un auteur, on a l'impression d'être un oiseau sur l'arbre tout près de l'écorce. Et quand c'est fini, d'ailleurs, quand j'ai fini de traduire, j'ai eu l'impression de retomber dans un monde qui n'avait aucune protection. C'est-à-dire que j'avais ce grand arbre dans lequel j'étais et puis plus rien d'un seul coup. Parce que... mais il y avait une chose qui me tentait, sur laquelle j'ai pensé beaucoup. J'en avais parlé dans le premier livre que j'avais écrit sur Dante, écrivain. C'était ces rimes de Dante, qui sont des choses étranges, parce que ce sont tous les poèmes qu'il n'a pas recueillis dans un ensemble. La Vita Nuova, il y a un ensemble de prose et de poésie. Mais là, il les avait gardés. Et alors, une chose s'est passée dans ce pays où Dante est le père de la patrie, eh bien, les rimes n'ont jamais été très considérées. Parce que les dentologues, les dentistes, comme on les appelle, pensent que s'il ne les a pas mis dans un tout, ça voulait dire que ça ne l'intéressait pas. Or, comment on fait pour ne pas s'intéresser à certains poèmes de Dante, ces rimes? On appelait ça rimes, on appelait rimes ce qui étaient des poèmes. En même temps, la rime existait et Dante a été aussi un expérimentateur extraordinaire, c'est-à-dire que tous ces poèmes, ces rimes étaient construites sur des rimes équivoques, répétées, des mots rimes, etc. Mais en plus, ce n'était pas uniquement une chose de technique littéraire, disons, sinon moi ça ne m'aurait pas intéressé de façon passionnée, mais c'est beaucoup plus, il y a aussi une transgression de Dante par rapport à lui, par rapport à ses propres limites. Disons, il y a des poèmes dans lesquels il dit que Béatrice est quelqu'un qui la portera simplement à la mort, pas du tout à la vie, comme il donnait la Vita Nuova, c'était Béatrice, et là, il dit, elle me fait souffrir de façon épouvantable, je veux dire, et d'ailleurs, elle me fait tellement souffrir que moi, le paradis, je veux dire, elle m'a fait des instants de bonheur, et à côté de ça, le paradis, ça n'est rien. Et puis, il disait, et puis de toute façon, quand je mourrai, on pourra me faire ce qu'on veut dans l'enfer, ça ne me sera complètement égal, parce que, je veux dire, les souffrances que j'ai eues dans la vie à cause d'elle ne seront rien à côté des souffrances de l'enfer. Donc, il y a un monde dans ces rimes qui est passionnant.
Alors, bien sûr, Jacqueline Risset, vous n'êtes pas seulement traductrice de Dante et de Machiavel, auteur de récits, comme je l'ai dit, en rappelant « Jeu » de 1971. On vous doit aussi des livres de poèmes. Et y en a certains, d'ailleurs, dont vous êtes venu parler ici, « L'amour de loin », chez Flammarion, « Petits éléments de physique amoureuse », dans la même collection « L'infini », chez Gallimard, et puis un autre qu'il faut absolument citer ce soir, c'est celui qui s'intitule « Les instants ». Les instants que vous avez publiés chez Farago il y a une dizaine d'années maintenant.
Oui, c'est ça. Hein, oui.
Même peut-être
plus. 14 ans.
Oui, 14 ans.
C'était en 2000, je crois.
En 2000. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre ces poèmes, oui, publiés sous ce titre « Les instants » et le livre qui paraît aujourd'hui « Les instants, les éclairs ». Je souligne qu'il n'y a pas de virgule entre « Les instants » et « Les éclairs ».
Non, c'était un peu, je crois que j'ai eu un modèle dans ce style de titre. C'était pour moi un livre qu'à ce moment-là, j'aimais énormément, un livre de Blanchot, « L'attente, l'oubli ». Et donc, ces deux substantifs qui sont l'un à côté de l'autre, sans virgule, ça m'avait touché profondément. Et donc, j'ai repris ça, « Les instants, les éclairs », qui sont évidemment à la fois des synonymes et puis des choses qui s'opposent. Donc, et en même temps, disons que les instants, pour moi, c'est ma manie, je veux dire. C'est quelque chose à quoi je pense toujours et c'est quelque chose qui est pour moi central dans l'expérience même de vie, disons, et dont je sens depuis très longtemps, depuis toujours, presque le devoir de parler, enfin de comprendre, parce que écrire, ça veut dire aussi comprendre ce qu'on ne comprend pas, enfin, je veux dire comprendre ce qu'on pense. Et les instants, je pensais que c'était dans la poésie que ça se disait peut-être le mieux, parce que chaque poésie est un instant, même si elle est longue, c'est toujours un instant, c'est toujours cette sorte de choc qui arrive dans la durée et qui brise la durée, qui l'arrête et la renouvelle d'une certaine façon. Mais en même temps, j'avais une espèce d'insatisfaction. C'était peut-être parce que ces poèmes n'étaient pas ce que j'aurais voulu qu'ils soient, mais je pensais tout d'un coup qu'il fallait peut-être une durée pour dire l'instant. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire ce livre, que j'ai mis longtemps à écrire, parce que j'ai renoncé deux ou trois fois, puis je l'ai repris, et finalement, je me suis dit qu'il fallait que je le finisse.
Faire entrer les instants dans une sorte de récit.
Oui, exactement. Exactement, parce qu'il y a un récit qui s'interrompt, qui reprend, qui se continue, et il y a une nécessité, en fait, pour moi, de ce rapport au temps à interroger sans cesse. Peut-être qu'on ne peut jamais arriver à finir cette interrogation.
Alors, il y a un poète que, sans doute, vous avez lu, Jacqueline Risset, et à qui je n'ai pas pu m'empêcher de penser, en lisant aussi bien « Les instants, livre de poèmes » que « Les instants, les éclairs », c'est Jean Tortel. l'auteur d'un volume intitulé Instant qualifié.
Ah, mais moi, je n'ai pas lu ce livre-là de Jean Tortel, mais moi, je le connaissais surtout par un livre qu'il a écrit sur un poète qui m'est extrêmement cher, qui est Maurice Sève. Et Jean Tortel est un des rares poètes français qui est lu. Et compris et aimé Maurice Sève. Et donc là, peut-être, il y a aussi cette... je vais lire tout de suite ce livre, si on le retrouve encore, j'espère, parce que maintenant, on ne trouve plus de livres dans les librairies. On ne trouve que les livres qui viennent de naître, mais ça n'en fait pas des instants pour autant. Mmh. Et donc, je vais le chercher parce que ça me fait très plaisir de trouver des correspondances, disons, des rapports entre les passionnés d'instant, disons.
Il a tendance, lui, à identifier le poème et l'instant.
Oui.
Et pour lui, le poème s'autonomise justement par rapport à la circonstance qui lui a donné naissance. Et c'est ce qui fait qu'il les appelle l'instant qualifié.
Oui, parce qu'à ce moment-là, on le transcende. Mais pour moi, c'est un autre problème. C'est aussi de ne pas trahir l'instant, parce que le poème a tendance à être compris ou à se comprendre même lui-même comme un objet. Et c'est justement ce à quoi l'instant échappe. Donc, il faudrait faire un poème qui soit presque sur le point de disparaître au moment où il s'écrit, ou que lorsque le lecteur le lit, il s'abîme sous ses yeux. Ce serait l'idéal. Mmh. Mais ça ne se passe
comme
pas
comme un éclair.
Comme un éclair, exactement. Et donc, c'est une chose qui est sur toujours le point d'arriver, mais qui n'arrive pas. Et donc, j'ai essayé de détourner, de tourner la difficulté par cela, d'une certaine façon. Et donc, je ne sais pas si j'y suis arrivée, mais en tout cas, c'est quelque chose de cela que j'avais envie de faire.
Il y a une question que vous vous posez, c'est la question de la continuité, justement. Est-ce qu'on peut imaginer une continuité d'instant au sens d'éclair, de coup de foudre, d'illumination, comme
oui.
Dit un autre poète.
Ah oui, ah oui, les illuminations, ça, évidemment, ça comptait beaucoup aussi pour moi. C'était peut-être le livre de poèmes qui me semblait qu'après les illuminations, ce n'était pas possible d'écrire. C'est-à-dire qu'il est allé tellement loin, je pense, sur Rimbaud dans les illuminations, qu'on a l'impression d'être toujours en retard sur lui. Parce que même dans le tissu des illuminations, on en oublie toujours les trois quarts, en fait, même les 80%. C'est incroyable, cette façon qu'il a de créer à ce niveau, à chaque instant, dans chaque mot, dans chaque poème, des possibilités incroyables. Et ça, pour moi, c'est toujours devant moi. Et en fait, la continuité, évidemment, on ne peut pas imaginer une continuité d'instant ou une continuité d'éclair, parce que je crois que l'éclair vient de la nuit, sort de la nuit, c'est justement pour cela qu'on le voit. Et en même temps, il redonne la nuit, parce qu'aussitôt qu'on n'est plus dans l'éclair, on est de nouveau dans la nuit. Et on ne peut pas non plus vivre de coup de foudre. Le coup de foudre se prolonge, mais il finit, ou il s'arrête tout de suite. Mais je veux dire, une continuité de coup de foudre ou d'instant, ça n'est pas pensable, ça n'est pas imaginable.
Vous dites que l'intensité de l'instant se reconnaît à la durée, que pourtant, il brise.
Et oui, exactement. Je crois qu'il y a cette espèce de rapport paradoxal qui fait où d'un tel changement, c'est la métamorphose. Je veux dire, l'instant, on ne peut pas dire qu'on est en train de changer. On change et la chose est par là.
L'instant doit être converti en durée.
Oui. Oui. Converti, c'est difficile de dire. Oui, je dis ça, mais je ne sais pas très bien comment ça se passe. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un rapport entre l'instant et la durée. Et c'est peut-être ça qu'est écrire. Mais ce n'est pas en même temps le résultat, disons. C'est comme si c'était toujours en mouvement, c'est-à-dire on n'arrive pas. Et pour moi, il y a des choses, il y a des poèmes ou enfin des textes. C'est un texte, moi, qui m'a énormément frappé, dont je parle dans le site. C'est un texte de Francis Ponge qui s'appelle La Mounine. Et il raconte comme ça, il était dans un autobus vers 8-9 heures du matin en Provence et quelque chose le frappe dans le paysage, les nuages, etc. Et il commence à faire une note là-dessus. Et ensuite, il reprend cette note. Et on a l'impression que c'est là. Vraiment que c'est vraiment dans l'élaboration, presque une élaboration infinie de la note qu'on touche quelque chose. Mmh. Et c'est pour ça, pour moi, que les romans me déçoivent presque toujours, en fait. C'est-à-dire que, il faut qu'ils finissent, il faut qu'ils fassent un équilibre, il faut que ça se développe. Mais le développement et le changement, ça n'est pas pareil. Le développement et la métamorphose, c'est vraiment autre chose. Mmh. Or, c'est vraiment la métamorphose qui est passionnante, parce que là, quelque chose se passe d'incompréhensible.
Alors justement, vous avez essayé de comprendre l'incompréhensible à travers ce qu'on peut appeler les premiers instants.
Oui.
En faisant un récit autobiographique fait d'instant.
Oui, fait d'instant. Et en remontant effectivement à l'enfance.
À l'enfance.
C'est oui. Pas que je voulais faire une autobiographie, disons, parce que, l'idée de l'autobiographie est continue. On commence par l'enfance et on continue jusqu'à la mort. Mais, ce sont des instants qui font aussi le contraire, sans que ce soit des flashbacks, disons. Parce que les flashbacks, pour moi, c'est l'horreur. Parce qu'on détruit le temps qui était en train de se construire pour reporter. Et, enfin, dans les films, c'est souvent l'effet du flashback, c'est destructeur. On était pris, on était en train d'être fasciné, on était comme dans un rêve, et plaf, on vous remet du réel dedans, et c'est fini. Mais, je ne sais pas, c'était justement les rêves. L'enfance et les rêves, pour moi, sont vraiment la vraie source, enfin le vrai lieu, disons, de ces événements, anti-événements, que sont les instants. Parce que les rêves, eux aussi, ils construisent comme ils veulent.
Et pourtant, vous parlez de l'éternelle déception des récits de rêves.
Oui, ça, parce que, je veux dire, moi, c'est une expérience que j'ai pas moi seule. Je le perçois, moi, mais je le vois. Quand quelqu'un raconte un rêve, il est encore tout pris dans cette effervescence, dans cette intensité qu'il vient de vivre. Et quand il le raconte à quelqu'un, le quelqu'un en question n'est pas du tout, intéressé. Il voit des détails, ça lui dit rien, ou ça lui dit des choses qui ne le manifestent pas. Donc, je crois qu'il y a un problème vraiment des récits du rêve. Et même Freud, qui parfois, lorsqu'il décrit dans les cinq analyses qu'il a faites, qui sont magnifiques à mon avis, il y a quand même souvent une déception parce que le récit aplati et ralenti. Et même, c'est quelqu'un qui en a parlé très bien, je trouve, c'est Pontalis. Quand Pontalis parle de la force d'attraction qu'il y a dans les rêves et qui dit qu'il y a une effervescence intellectuelle dans le rêve. Et que quand on se réveille, on retombe au contraire dans une espèce de platitude. Y a plus de pensée, alors que le rêve pensait, justement. Et ça, c'est pour moi, c'est fascinant. Et c'est vraiment une chose qu'il ne faut pas arrêter de voir, de réfléchir.
Quelqu'un que vous connaissez bien, sur qui vous avez écrit, Yves Bonnefoy, parle de récits en rêve plutôt que
de récits en rêve. Voilà, je crois que c'est en effet, il m'avait frappé aussi quand j'avais lu ces récits en rêve de Bonnefoy. Je pense que c'est vraiment ne pas quitter vraiment ce lieu non-lieu, enfin ce lieu étrange qu'est le rêve. Il faut l'emporter avec soi ou se porter soi-même là ou le transporter, mais on ne sait pas très bien où. Ça n'est pas dans le réel, disons. Ça n'est pas dans la veille.
Vous tournant vers l'enfance, Jacqueline Risset, bon, vous avez retrouvé beaucoup de rêves.
Oui.
Mais aussi des livres.
Oui, c'est vrai.
Des livres que vous ne liriez peut-être pas aujourd'hui, comme L'enfance des hommes illustres.
Ah oui, c'était un livre qui m'avait beaucoup, beaucoup frappé. Et ça m'avait frappée par quelque chose que je sentais très important. C'est-à-dire, en réfléchissant à ce livre, j'ai pensé que ce qu'il y avait de commun entre ces gens très différents les uns des autres, je crois qu'il y avait une femme, je ne suis pas sûre, même Jeanne d'Arc, mais tous ces braves jeunes gens, enfin même, c'était des enfants en fait, c'était l'enfance vraiment. Et ce qu'il y avait, c'était chez eux une espèce d'instant, je crois. Je ne sais pas si en relisant ce livre j'aurais cette impression, mais j'avais l'impression qu'il y avait un moment, en tout cas dans leur vie, de refus, enfin, ou de désir de quelque chose de complètement autre, et que c'était à partir de ça que la suite de leur vie se construisait, et que c'était juste ça qui les tenait, donc cette pointe, cet instant même.
Donc les livres, c'est ce qui permet d'imaginer la vie des autres.
Ah oui, ça, moi, c'était une chose aussi. Ça, dans Proust, Proust, moi, me hante toujours, mais il y avait une chose qui m'avait beaucoup frappée, c'est quand il parlait de l'art et qu'il disait que s'il n'y avait pas l'art, on ne saurait pas comment vivent les autres, ce qu'ils pensent, ce qu'ils vivent. Ce seraient des monades, les unes à côté des autres, sans communication réelle. Alors que l'art vous fait tout d'un coup pénétrer dans ces monades. Et vous avez une possibilité d'entrevoir la vie d'une façon beaucoup plus vaste que votre petite monade personnelle qui vous entoure. On est enfermé dans sa monade. Alors là, il y a des fenêtres brusques qui s'ouvrent et qui vous permettent de voir ailleurs, de vivre ailleurs même.
Une question qui s'ouvre aussi au détour du récit, c'est qu'écrire.
Ah oui, oui, bien sûr, parce que je veux dire, si on écrit, parce qu'on se dit que d'une certaine façon, justement, il faudrait décrire toute sa vie. Il n'y a pas de raison de sauter des passages, parce que même les passages qui vous semblent les plus insignifiants. Quelquefois, longtemps après, vous vous apercevez que c'est justement ces passages-là qui ont engendré quelque chose qui vaut la peine, quelque chose qui est précieux, quelque chose qui vous accompagne. Et donc, mais qu'est-ce qu'on fait si on écrit tout, on est toujours en retard parce que la vie va plus vite, même que le porte-plume ou que l'ordinateur. Il n'y a rien à faire. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de capturer. C'est toujours d'une capture, d'une chasse. Mais quand on chasse, quand on capture, on immobilise. Si vous chassez un oiseau, vous le capturez. Et donc, il faut, je pense, la musique est précieuse en ça, parce que la musique est la seule qui soit dans le temps, qui vive le temps. Et les autres le capturent. C'est même pas vrai, parce que la peinture aussi capture sans capturer. Donc je crois que c'est l'art. Il n'y a que l'art qui fasse quelque chose, en fait, dans la vie. Les autres, le reste du temps, bon, la politique est maladroite. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Je veux dire. Et tous les autres sont maladroits.
Ouais. Mais si je vous ai bien lu, l'oiseau, c'est l'enfance. C'est l'enfance qui veut être écrite.
Je crois, oui, c'est ça. En effet. Je ne l'ai pas pensé comme ça, mais je crois que vous avez raison. C'est en effet cette espèce de cellule extraordinairement mobile qui est toujours sur le point d'échapper et qu'il faut non pas enfermer dans sa main, mais suivre, voler au fond.
Vous dites qu'il y a toujours quelque chose à faire de plus urgent qu'écrire.
On retarde toujours, je veux dire, il y a des choses qui vous occupent dans l'existence, des problèmes, il y en a tous les jours. Et puis même, on choisit de faire autre chose. C'est ça qui est extraordinaire, parce que ce qu'on a à faire, c'est le plus important, mais on a toujours d'autres choses à mettre avant. Je veux dire, comme si, on échappe. Parce que c'est le plus difficile en même temps. C'est ce qui exige de vous le plus. Et on a envie aussi, quelquefois, de se promener au bord de la Seine. Mais en se promenant au bord de la Seine, c'est aussi le centre. Donc, c'est très difficile, en fait. C'est très difficile de faire ce qu'on veut faire, ce qu'on désire le plus profondément faire. C'est difficile aussi d'échapper.
C'est de l'ordre du désir ou du devoir ?
Ben, c'est les deux. Si ça n'était que l'un, je veux dire, le devoir, c'est ennuyeux. Le désir, ça ne vous contraint pas à rester à votre table. Et donc, il faut qu'il y ait un mélange des deux. Et ce mélange des deux se produit, heureusement, quelquefois.
Mais ce que vous diriez, puisque on sait que vous êtes aussi une grande lectrice de Proust, que l'écriture, c'est la seule, la vraie vie ?
Je ne pourrais pas dire ça exactement comme ça, mais je pense que si on n'écrit pas, on n'est pas allé jusqu'au bout. Et on ne va jamais jusqu'au bout d'ailleurs, mais je pense que c'est quelque chose qui est à faire, en fait, je veux dire. C'est une chose qui ne peut pas vous échapper, qui ne peut pas se refuser à vous sans cesse.
Mais qu'on cherche souvent à différer.
Ah, tout à fait.
Avec, par exemple, la passion des instants.
Ah, vous voyez ça comme ça ?
Qui est une forme d'inconstance pour fuir une continuité.
Oui, en effet, oui, bien sûr. Si je dis, ah ben j'aime trop les instants pour me mettre à les raconter. Oui, bien sûr, on ne peut pas dire le contraire. Mais alors, il se passe quelque chose. Et il se passe quelque chose. Peut-être. Alors là, les rêves sont précieux parce que vous voulez les rappeler, justement. Même si vous savez que le récit de rêve n'est pas satisfaisant, la mémoire est toujours présente dans tout ce qu'on fait, finalement. Même la mémoire d'un instant, parce qu'il ne met pas longtemps à disparaître.
Il y a une question que vous posez, pas loin de la fin du livre. Est-ce que l'acte d'écrire délivre de l'amour ou est-ce que c'est le contraire ?
Ah oui, c'est une chose. Moi, je n'ai pas encore éclairci beaucoup ça. Mais je crois les deux. Parce que l'amour est quelque chose qui recouvre toute la vie, qui tout d'un coup la transfigure. Et aussi l'abîme dans la douleur, par exemple. Et j'ai découvert une chose en traduisant les rimes, c'est que Dante est peut-être le poète que je connais qui parle le mieux, le plus profondément, le plus douloureusement de la douleur d'amour. Et ça, c'est quelque chose que je ne lui connaissais pas à ce point, parce que dans la comédie, tout est porté vers l'avant sans cesse jusqu'à la vision finale qui disparaît d'un coup, mais il y a le soleil et les autres étoiles et l'amour qui les conduit, alors que des moments d'amour, de douleur terrible, de douleur absolue, et il les raconte. Je ne pense pas que ça délivre de l'amour, mais ça délivre d'une espèce d'obsession morose que l'amour produit aussi. Parce qu'on pense à la transfiguration, mais on ne pense pas au désespoir. Il y a les deux. Donc, l'écriture est une espèce de lien étrange qui permet de circuler, disons, qui permet de vivre avec l'amour ou avec une sorte d'intensité qui se reproduit peut-être toute seule, sans avoir besoin d'être fixée à un lieu. Parce que l'amour est quelque chose qui transfigure, mais qui vous lie à un seul point de la planète, de l'existence. Et finalement, tout le reste échappe. Et écrire, ça permet de relier des points qui n'étaient pas tous ensemble. Et ça, on a ça beaucoup chez Maurice Sève, par exemple.
Des instants qui reliaient donnent une plénitude.
Exactement. Une plénitude nouvelle, c'est, disons, une plénitude qu'on ne connaissait pas. Et ce qui est toujours intéressant dans la vie, c'est que on ne connaît jamais l'instant qui va suivre.
Justement, l'une des questions que je me pose, c'est ce qui se passe entre les instants. Qu'est-ce que c'est que cet espace de séparation ?
Eh bien, justement, quelquefois, on croit que c'est un espace morne, que c'est un espace mort, que c'est que lorsque le coup de foudre, disons, ou l'instant même, l'éclair arrive, c'est au milieu d'un passage et d'un paysage plat. Eh bien, pas exactement, parce que si c'était exactement plat, il ne pourrait même pas naître l'instant. Donc, il y a une espèce de travail souterrain, de préparation, qui est fascinante elle aussi. Donc, finalement, en s'intéressant aux instants, on finit par s'intéresser à ce qui se passe dans la terre quand les fleurs sont en train, les plantes sont en train de naître. Et ça, c'est curieux, mais je veux dire, on est amené par les instants à aimer et à vivre ce qui est en dehors des instants.
Y compris l'oubli.
Ah oui, l'oubli est important, parce que l'oubli est une chose qui permet de renaître, en fait. Si on n'oubliait rien, ce serait d'un ennui mortel. On vivrait une continuité sans trous, sans surprise. Et donc, sans surprise, est-ce qu'on pourrait vivre ? Moi, je ne crois pas.
D'où viennent-ils alors les instants ? D'un trop plein de la durée.
On pourrait dire ça, mais c'est pas non plus un trop plein, parce que la durée, elle vous donne l'impression de couler tranquillement, en fait, je veux dire de ne pas avoir de trop plein. Ça ne, mais il se passe ces accès. Finalement, on n'arrive pas à comprendre. Je veux dire, c'est moi ce que je crois que. C'est pas un échec en même temps. C'est ça qui est intéressant. C'est que on n'arrive jamais à comprendre tout à fait, mais quelque chose s'est mis en marche, s'est mis à circuler autour de vous et en vous. Et donc, la vie, le monde sont intéressants.
Un éclair d'intensité.
Oui, voilà.
On ne peut pas aller plus loin.
Ah ben, si, on peut aller toujours plus loin, mais où, on ne sait pas. Donc, c'est une sorte de vie interrogative, si vous voulez. Mais je n'en voudrais pas d'autre.
Les instants, les éclairs, le livre de Jacqueline Risset est publié chez Gallimard. Du jour au lendemain, Claude Niort, Anne Franchini, François Poirier, Alain Weinstein. Bonsoir.